voiture, je vais le chercher, j'arrive à l'église, je dépose, je rentre dans l'entrée de l'église, la soirée se passait en bas, et là je pense à Emmanuel Fischer, protéger les jeunes du monde par l'église. On a changé le nom de notre groupe de jeunes en Cap 1 Timothée 4:12, et que je lirai tout à l'heure. Et la proposition de mon étude biblique, la petite phrase qu'il faut bien pour qu'ils retiennent et qu'ils partent avec cette phrase et qu'ils retiennent toute l'année au moins, j'espère, c'était « Sois un modèle ». Et j'avais trois jeunes là. Je me suis dit « Comment je vais arriver à faire en sorte qu'ils entendent juste la proposition « Sois un modèle ». Est-ce que je change mon étude de ce soir avec un truc beaucoup plus light, beaucoup plus évangélisation, ou est-ce que je mets le ton directement pour les jeunes qui sont déjà présents dans le groupe de jeunes, et en même temps pour eux, est-ce qu'ils vont prendre au vol ce qui traîne dans les branches et j'appuie sur soit un modèle. Et je me dis tant pis, vaille que vaille, soit un modèle. On commence direct, temps biblique. Alors là, je vous avoue que j'avais la pression. Il s'asseye, on se regarde un peu en chaîne faïence. Allez, vous savez qu'on a changé le nom du groupe de jeunes cette année. On ne s'appelle plus groupe de jeunes, on s'appelle Cap 1 Timothée 4:12. On ouvre la parole. Et alors je regarde ces trois personnages-là. Elle avait séché ses larmes, elle était souriante, il était souriant, et le troisième était perplexe. Et on a ouvert la parole, « Sois un modèle ». Protéger les jeunes du monde par l'église, tout un programme. J'ai pas d'idée toute faite, je le saurais si j'avais la solution de miracle, je l'ai pas. On a évoqué pas mal de choses hier, on a vu des choses qu'on devait mettre en place, et pour essayer de rappuyer ces choses là et d'autres, j'invite à prendre trois chapitres. On va pas tout lire aujourd'hui. J'ai fait des sections dans les trois premiers chapitres de 1 Samuel. Trois premiers chapitres de 1 Samuel. On a une famille un peu particulière. On a un homme qui paraît être un homme juste, qui a l'air de prendre soin de ses femmes, parce qu'il a deux femmes, prendre soin de ses enfants. Ça a l'air d'être un homme qui est pieux. Il va régulièrement, chaque année, au tabernacle, il offre des sacrifices, il passe du temps là-bas, il offre à manger à ses femmes, et à ses enfants. On voit que c'est quelque chose qu'il répète régulièrement, et d'un côté, il y a quelque chose qui va bien, parce qu'il a une femme qui est bénie, qui a des enfants. Et de l'autre côté, ça ne va pas très bien. Il a une femme à qui il manque quelque chose. Elle n'a pas d'enfant. Alors, je pense que c'est un bon mari. Et je me reconnais un peu dans sa manière un peu non délicate de voir les choses. Il va dire à sa femme, « Ouais, mais tu n'as pas d'enfant, mais tu m'as moi. » Je pense que si j'avais dit ça à ma femme, aimerait renvoyer d'où je viens. T'as pas d'enfant, mais c'est pas grave, tu m'as moi. Avec toute l'affection, l'amour qu'il avait pour sa femme, la seule consolation qu'il avait pour elle, c'est t'as pas d'enfant, parce que l'Éternel ne t'en a pas donné. Deux fois dans le passage, c'est marqué, mais tu m'as moi. Alors en tant que maman, en tant que femme, ça l'a pas consolé, et elle va s'approcher de Dieu, en larmes, pleine de tristesse, le cœur plein d'émotions. Et on va commencer notre section à partir du verset 9 du chapitre 1. Anne se leva, donc ils sont au tabernacle à Silo pour offrir des sacrifices. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Je vous assure qu'en tant que papa, j'aurais jamais pu faire cette prière. Je ne sais pas si ma femme aurait pu la faire, mais la première chose qu'on va apprendre aujourd'hui, qu'il nous faudrait qu'on retienne, c'est que Dieu nous a prêté des enfants. Ils ne sont pas à nous. Quand j'ai quelque chose qui m'appartient, j'en fais ce que je veux. Quand j'ai quelque chose qui ne m'appartient pas, je dois rendre des comptes. On a amené notre voiture au garage il y a quelques semaines, et on nous a prêté une belle voiture, de location qu'on a garé sur une place normale, dans une rue normale. Rien de plus normal que lorsqu'on est revenu, la voiture était abîmée. Quelqu'un est rentré dedans, il a abîmé la porte, le bas de caisse, et si c'était que ça, il est parti. Alors heureusement, il y avait des témoins, etc. Bon, l'affaire est toujours en cours, hein. On a porté plainte, mais bon. Quand j'ai vu la voiture, la première chose à laquelle j'ai pensé, je vais devoir rendre des comptes pour cette voiture. Et pour les enfants que j'ai dans ma famille, dans mon église, je vais devoir rendre des comptes parce qu'ils ne sont pas à moi. Ils m'ont été prêtés. Anne, elle est stérile. Elle est stérile pour une raison particulière, verset 5 et verset 6. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. On ne sait pas pourquoi. Ce qui va la titiller au plus profond, c'est que juste à côté, sous le même toit, il y a l'autre femme d'Elkana, son mari, qui elle a des enfants et qui va pointer du doigt le fait que l'Éternel a rendu cette femme stérile. Souvent on oublie ça quand on a des facilités à avoir des enfants, avec la médecine, avec la vie qu'on a, parfois on a des facilités à avoir des enfants, et on a un enfant, deux enfants, et je les considère, maintenant je parle à la première personne, je les considère comme mes enfants, ils m'appartiennent, j'en fais ce que je veux. Alors comme j'ai des obligations envers Dieu, je me dois d'élever mes enfants, suivant les principes qui sont bibliques, mais c'est pas tes enfants. Je te les ai prêtés, ça durera 9 ans, 15 ans, 20 ans, le plus tard possible, j'espère. Mais c'est pas tes enfants. Et comme c'est pas tes enfants, Franck, tu me rendras des comptes pour ces enfants. Il y a des jeunes qui traversent, qui ouvrent la porte de nos églises, on ne sait pas d'où ils viennent parfois, et ils restent là 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on considère qu'on les aura pour la vie, et on prend du temps parfois. On prend trop de temps parfois avec eux. Un enfant, c'est une bénédiction pour la famille, c'est une bénédiction pour l'église. Nos jeunes sont une bénédiction pour l'église parce qu'ils ont la force, le dynamisme. Parfois, ils viennent un peu bousculer nos habitudes. Ça, on n'aime pas. Hein. On n'aime pas être dépoussiéré. Et je vous avouerai que il y a quelques années, on m'a fait clairement comprendre que j'étais plus jeune. T'as pas Snapchat, Franck ? Mais t'es nul. Comment ça, je suis nul ? J'ai un téléphone portable, dernier cri. Non, t'es nul. T'as pas ce truc là, t'es nul. Tu connais cette musique? Non, t'es nul. T'es vieux. Et je passe du côté de celui maintenant où on va prendre cette jeunesse et on va la faire avancer. On oublie souvent quand on les voit avec leur dégaine là, leur téléphone portable et leurs écouteurs, qui sont une bénédiction pour nous. Et on doit les considérer comme tels. Parfois on n'en a pas dans nos églises et c'est une tristesse. Parfois on en a et on les gaspille, en laissant faire ce qu'on veut. Rappelons-nous premièrement que on nous les a prêtés. En tant que parents et en tant que responsables d'église, ces jeunes, on nous les a prêtés pour un temps. Je pensais ce matin à la parabole des talents. Alors, on va pas mettre notre jeune, on va pas le mettre sous une terre ou dans une banque, mais on doit les faire fructifier. Parce qu'on rendra des comptes. Versets 27 et 28. Elle va dire pourquoi elle veut ses enfants. Dieu va bénir la famille, Elkana, Anne vont avoir cet enfant. Et quelques temps après, on va y revenir dans quelques instants, Anne va honorer sa promesse. Mais elle va dire à Élie la raison pour laquelle elle voulait l'enfant. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Apparemment il y a un petit jeu de mots là dans la langue originale, c'est en fait je vais prêter à l'Éternel ce qu'il m'a prêté pour que je lui rende. C'est ce que Anne dit. Je vais prêter à l'Éternel ce qu'il m'a prêté pour que je lui rende. Voilà pour la raison pour laquelle nous avons nos jeunes, nos enfants, pour rendre à l'Éternel ce qu'il nous a donné. Première chose, on doit considérer, nous en tant que responsables et parents, que nos enfants, nos jeunes, nous ont été prêtés. Maintenant que j'ai mon enfant, maintenant que Anne a son enfant, quel genre de mère c'est? C'est une mère qui veut garder son enfant 4, 5, 6 ans. C'est une mère qui aurait pu avoir son enfant et le garder à la maison juste pour narguer sa rivale. Mais on voit que, en tant que mère, et nous en tant que responsable d'église, on doit vouloir leur consécration. Ce que Anne veut, ce que je dois vouloir, ce que l'on doit vouloir, c'est pour ses enfants, ces jeunes, leur consécration. Verset 11. Si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Je ne sais pas si Luciano t'accepterait qu'un enfant de 4-5 ans te soit donné et que tu le gardes à l'église pour tous les jours de sa vie. Je ne sais pas si tu accepterais ça. Joël, peut-être, je ne sais pas s'il le ferait, d'autres. Mais on est en d'autres époques. Et Anne a compris que l'endroit où l'enfant peut être consacré à l'Éternel toute sa vie, c'est au temple. Ce n'est pas à la maison. Ce n'est pas chez elle. Elle a compris qu'à la maison, là, à cette époque-là, il n'y aurait pas le meilleur pour le service de son enfant. Et que son enfant doit être amené vers le temple. Elkana, verset 20, verset, la fin du verset 19. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute la maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours devant l'Éternel. » La consécration. Quelque temps auparavant, Dieu dira à son peuple, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. » Et vous leur en parlerez quand vous serez dans vos maisons, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes, et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. On commence à en avoir un indice là, pour protéger les jeunes du monde par l'Église. Et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce que je suis en train de dire comme verset là, Proverbe 22, 6, c'est pas une garantie à 100%. Ça veut pas dire que si tu passes de 0 à 18 ans à instruire ton fils, il sera un serviteur plus tard. Ça veut dire qu'en tant que parent et en tant que responsable d'église, j'ai mis de mon côté toutes les choses en place pour que cet enfant devienne consacré. Et c'est là notre responsabilité. La seule chose parfois qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils soient bien élevés. Attention, t'es fils de pasteur, tu fais pas de vagues, tu fais pas de bruit, t'es fils de responsable, tiens-toi à carreau, ne me fais pas honte. Un jour, peut-être qu'ils partiront de l'église ou de la maison sans être convertis, mais ce sera un déchirement, mais ça devait être leur responsabilité, pas la nôtre. En tant qu'église, en tant que parent, on doit vouloir leur consécration. Je crois, j'ai pas d'ado encore à la maison. Parfois, je me demande avec mon fils de 9 ans, mais peut-être que l'avenir sera pire. Mais je crois pas que je doive laisser mes enfants décider de ce qu'ils ont besoin spirituellement. Quand ils seront ados, peut-être que je les laisserai ne pas manger. Peut-être qu'un jour, ils auront le droit de ne pas se laver. Peut-être qu'ils auront le droit de porter leur pull préféré pendant 3, 4, 5 jours. Mais tu n'auras jamais le droit de décider pour ta vie spirituelle tant que tu es sous mon toit. Tu as besoin de Dieu et ça, c'est pas négociable. Et l'endroit pour Anne, pour que son enfant puisse recevoir son instruction et devenir consacré, c'est le temple. Ça commence très tôt et elle va emmener en fait son enfant à l'église. Et parfois on a des parents qui arrivent et qui amènent leurs enfants à l'église. Ils les amènent avec leur lot de sale caractère parfois. Ils les amènent avec leur arrière-plan familial, il les amène avec un arrière-plan parfois théologique compliqué, il nous les amène avec des souffrances intérieures, des blessures du passé, et parfois on a l'impression que voilà, c'est pour vous. Quand on voit le chapitre 2, qu'on ne va pas lire en entier, on a l'histoire des deux fils d'Élie. Et eux aussi, encore plus que Samuel, ils sont nés à l'église. Ils ont grandi à l'église et ils sont responsables à l'église. Mais ce qui est caractéristique de ce passage, c'est que cette histoire, cette petite première section de l'histoire des fils d'Élie, elle est encadrée par deux phrases. Et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie, verset 11, chapitre 2, verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel. On nous les amène, les enfants, et parfois on les garde gentiment. Parfois ils vont profiter d'une bonne ambiance qu'il y a dans l'église. Parfois ils vont profiter de bonnes choses. On va faire des sorties ensemble, on va faire plein de choses. Et ils vont grandir dans nos églises et on va le regarder. Et à l'âge adulte, on va se dire, ouf, il y a quelque chose qui n'a pas été là. Ils ne sont pas consacrés. Ce qu'on apprend encore dans ce texte, des versets 11 au verset 18, c'est que ne sont responsables dans l'église que ceux qui sont consacrés. On a eu un diaporama hier avec Don, percutant, vraiment qui bouge un peu les choses, qui nous fait réfléchir. Et on voit des jeunes, des enfants même, qui étaient commençaient à être au travail, au service, mais ils n'étaient pas responsables. Parce que n'est responsable dans l'église que quelqu'un qui est consacré. Amen. Lisons ensemble les versets 11 à 18 du chapitre 2. Et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler les graisses, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair à cuire. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu n'auras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant aurait été revêtu d'un éphod de lin. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On est ok pour que tu chantes pendant que le groupe de jeunes chante, même si tu n'es pas converti. On est ok pour que tu viennes faire de la distribution avec nous, même si tu n'es pas converti. Mais on n'est pas ok pour que tu sois responsable. On a des jeunes qui grandissent dans l'église, qui sont des fils de pasteurs parfois, des fils de responsables, ils sont des fils de membres, mais ils ont grandi dans l'église. Ils font partie de l'environnement de l'église. On les a dans toutes les classes d'école du dimanche, ils savent répondre à toutes nos questions, ils connaissent tous nos versets, ils ont un comportement qui semble dire qu'ils sont... Ils sont des enfants de Dieu, mais pas du tout. Ça m'est revenu en pleine face il y a deux ans, je ne sais plus. On était avec le groupe de jeunes partis à Algrange, on avait fait une semaine là-bas. Et je m'étais dit que j'allais prendre un peu de temps avec un moment les filles, un moment les garçons. On allait, on est ailleurs de Toulon, on est dans la campagne profonde. On va prendre du temps pour. Heureusement que c'est la campagne profonde, on a du temps pour étudier à Algrange. On va prendre du temps pour parler un peu là plus profondément. Alors j'ai pris ces deux temps-là avec ces filles et ces garçons. Et il en est ressorti que la majorité d'entre eux n'avaient rien compris au salut. On les considérait, je les considérais, pardon, comme des enfants convertis, qui étaient engageables, qu'on allait responsabiliser, pardon, mais ils n'avaient rien compris au salut. Et le malheur dans tout ça, c'est que ça a duré pendant plusieurs années, avant que je réalise ça. Si tu n'as pas compris ce que c'est que l'évangile, tu ne peux pas avancer. Et si je ne t'ai pas annoncé ce que c'est que l'évangile, tu ne peux pas avancer. Ce n'est pas l'assiduité à l'église qui va sauver définitivement les jeunes du monde. Ce n'est pas ça. Pas parce qu'ils font toutes nos classes et qu'ils répondent à nos questions qu'ils sont convertis, qu'ils sont sauvés. Mais on doit vouloir leur consécration. Et leur consécration, ça passe par une annonce stricte de l'évangile. La différence entre Samuel et ses deux fils d'Élie là, c'est que lui va comprendre l'évangile. Dieu va s'adresser particulièrement à lui, comme Dieu s'adresse à nos jeunes. Et lui va répondre par la positive, faire sienne cette promesse, et va devenir un quelqu'un qui est engagé et consacré. Verset 17, il me rend perplexe. Le verset 17 me rend perplexe. Parce que d'un côté, on a un papa qui ne se bouge pas pour ses enfants. Et d'un autre côté, on a un papa à qui on va confier un enfant pour qu'il grandisse. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et au plus tard, Dieu va reprocher à Élie ça. Mais en fait, tu fais passer tes enfants avant moi. C'est très particulier comme histoire parce que la personne qui doit être exemplaire et qui doit conduire ses enfants vers la consécration et qui ne le fait pas, c'est à cette personne-là qu'on laisse un enfant qui doit être consacré. Alors c'est une fausse excuse que je vais dire, vraiment. Hein. Mais quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, oh ben si t'es pas parfait, Franck, c'est pas grave. Parce que Dieu fera le travail. On a un gars qui n'est pas consacré, qui élève un enfant qui va devenir quelqu'un consacré. C'est pas grave si... Non, pas du tout. Élie, il est responsable de ça. Et nous, on est responsable du fait que même nos enfants, ils doivent être consacrés. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne considérons pas qu'un enfant qui est né dans l'église est un enfant qui est converti. Ne sont au service que ceux qui sont consacrés. Alors ça passe par les étapes, hein. Ça passe par un témoignage public de sa conversion. Ça passe par des fruits visibles. J'ai prêché à un baptême il y a quelques années. Il y avait cette jeune qui m'avait demandé de prier pour elle en particulier. C'est pas à Toulon, parce que ça aurait été un peu particulier, tu aurais été au courant, Luciano. Et j'ai prêché à ce baptême, j'ai prié pour cette personne, et cette personne, je ne l'ai plus revue pendant quelques années. J'ai eu des nouvelles de cette personne qui s'était en fait convertie 2 ans ou 3-4 ans après son baptême. Tout est bien qui finit bien, hein. Elle s'est convertie. Mais elle est tombée dans une espèce d'ambiance où les jeunes se font baptiser, les jeunes sont convertis, et elle dirait elle-même, il y avait cette ambiance à l'église. Il y avait ça. Et moi, je me suis engouffré dans ça. Entre cette section d'une famille qui ne va pas du tout, on a un Samuel qui est au service. Alors, je préfère dire qu'il est au service, il est en train d'aider. Il n'est pas responsable encore. Il est tout jeune, il apprend à servir, il apprend à se mettre au travail. Dans notre église, avant, on avait l'habitude de faire lire des textes de prédication à des jeunes. Très bonne initiative. Et une église aux États-Unis avait la même initiative, et un jour un jeune prend le texte, il va faire comme ce que je peux faire d'habitude, bûcher sur chaque mot. La lecture va être horrible, insoutenable, ça va être un supplice, et pour lui et pour l'assemblée. Il va retourner s'asseoir, ce jeune, il va fermer la Bible, il n'a pas écouté le message, hein. parce qu'il sait très bien qu'en sortant du culte, il va se prendre la honte. Il va sortir du culte et quelqu'un va lui dire, écoute, c'est bien ta lecture, la prochaine fois tu recommences. Mais pas du tout, c'était nul ce que j'ai fait, je sais pas lire, etc. C'est pas grave. La prochaine fois tu recommences. Ce jeune-là, qui était, c'était pas un ministère particulier, hein, il a été fidèle. En lisant la parole, il s'est converti. C'est devenu un grand prédicateur. Le petit Samuel, là, il est au travail. Il a ses petites responsabilités. Quelqu'un disait, un esprit oisif, c'est l'atelier du diable. Et parfois, on a nos... J'étais étonné de voir des enfants hier à la musique, ils avaient 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et je me dis que voilà, on a des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans dans notre église qui font de la musique. Peut-être un moment leur dire que la musique, c'est pas pour toi. Hein. C'est pour le culte, c'est pour Dieu. Et c'est vrai que je me focalise souvent sur la jeunesse et j'oublie les enfants. On passe à côté parce qu'on se dit, voilà, ils ont le temps de se convertir. Mais dans l'exemple qu'on a là, même un enfant, ça peut être au service. C'est utile. On va pas prendre le texte de ce petit garçon qui ramène à Jésus ses 5 pains et 2 poissons. On a ce roi Josias, hein, qui décide de faire des rénovations dans le temple et qui est complètement bouleversé, transformé par la parole de Dieu. Voilà, on a des exemples comme ça. Ce jeune Joseph, vendu par ses frères, devenir numéro 1 de la maison de Pharaon, de Potiphar, pardon, et qui va devenir le numéro 1 du pays après le Pharaon. Alors on a le jeune David qui va commencer sa carrière en étant juste un berger, à se battre contre des ours et des lions, et qui va devenir le berger d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu. On a des exemples où des jeunes gens sont mis au travail tôt. Alors je dois avouer que c'est dur. Quand je regarde les pré-ados, je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur faire faire? La réponse m'est venue de quelqu'un qui est venu prêcher à l'église et qui nous a dit que le premier travail d'un jeune chrétien, c'est de prier. Alors il doit avoir des sujets de prière. Il doit lire sa Bible, son premier travail. Et après avoir commencé à prier et lire sa Bible, on peut commencer à lui donner des responsabilités. Il peut prier pour les personnes âgées. Il peut prier pour l'évangélisation. Il peut prier pour les malades. Il peut prier pour la famille pastorale. Il peut prier pour ses amis. Il peut amener des amis dans nos réunions. C'est son premier travail. Et c'est vrai que je me fais la remarque, le reproche même, de me dire, si je faisais plus ça avec les plus jeunes, peut-être qu'on aurait un début de commencement de service. Ne servent que ceux qui sont consacrés. Versets 22 à 36, on va reparler de ces fils d'Élie. On ne va pas prendre le temps de le lire. Ça va être un peu long. Les fils d'Élie, là, ils vont ramener dans le temple du péché. Dans le temple, ils ramènent du péché. Élie va être averti de tout ça. Dieu va envoyer un homme qui va prévenir Élie. Rien ne va changer. Il va y avoir deux reproches, mais dans le fond, pour ses fils, rien ne va changer. Dans ce texte, on apprend qu'il n'y a pas de place pour le monde dans l'église. On accueille les jeunes, venez, c'est ouvert, tout le monde. Mais il n'y a pas de place pour le monde dans l'église. Ce que vous trouvez dehors, vous ne le trouverez pas ici. C'est pas possible. Qu'est-ce que vivent nos jeunes? L'addiction, téléphone portable. Vous serez étonné de savoir le nombre de films et de séries que les jeunes regardent sur leurs petits écrans là. Ils vivent dans le monde de la fainéantise, de la vulgarité, une musique dégradante, l'influence de la sexualité, des tenues vestimentaires provocantes. Ils vivent selon le regard des autres. Ils vivent des relations garçon-fille malsaines. Certains sont en échec scolaire, d'autres vivent le culte du corps, d'autres se fixent pour appartenir à un groupe, quel que soit le groupe. Et là, je parle que de nos jeunes à nous, hein. Parce que les autres, c'est l'addiction à la cigarette, à la drogue et à l'alcool de plus en plus tôt, l'addiction à la pornographie, c'est la délinquance, la rébellion, c'est la perte de repère. Certains sont homosexuels, d'autres sont des ex-prisonniers, certains sont des fanatiques religieux et d'autres souffrent d'effets de la sexualité débridée. Ça, ce sont les jeunes qui peuvent venir dans nos églises. Tu as vécu ça à l'extérieur, mais tu ne trouveras pas ça chez nous. Et parfois, il faut combattre avec les jeunes et avec les parents pour des choses qu'on paraît dépassées pour un chrétien. Tu ne fumeras pas ici. C'est pas possible. Ta musique là, pas ici. C'est pas possible. Ta tenue vestimentaire, ça c'est compliqué. Hein. Ta tenue vestimentaire là, pas ici. C'est pas possible. Tu vois ça là-bas, mais pas ici. Et quand je me fais le bilan de tout ça, il n'y a pas de place pour l'église, pas de place pour le monde dans l'église. Je me dis, mais franchement, comment attirer? Hier, on discutait de cette croix. C'est vrai que c'est bien fait, hein, c'est joli. On discutait de ça et je me suis dit, est-ce que ça plairait à un jeune, ça? Je regarde l'entrée de l'église, notre hall. Est-ce que c'est accueillant pour un jeune, ça? Et parfois, je me dis, mais comment faire pour les faire rester? Comment on fait pour les faire rester? La différence entre un Samuel et ses deux fils d'Élie, c'est que la raison pour laquelle Samuel y reste, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Parfois, j'oublie, et c'est un tort de ma part, que seul Jésus-Christ, sa seule présence, sa seule connaissance est suffisante pour faire rester un jeune et pour le faire adopter une attitude positive et juste dans l'église et l'exporter en dehors de l'église et cesser son péché qui peut être à l'extérieur. Parfois j'oublie que la seule fait de présenter Jésus-Christ est suffisant pour qu'un jeune reste. Il faut parfois y mettre la forme dans la parole, parfois y mettre la forme dans l'ambiance. Il faut que l'ambiance soit positive aussi, il faut qu'il y trouve de l'amour, mais c'est pas parce qu'il mangera du pain ou de la pizza qu'il restera, même si le pain et la pizza sont nécessaires. Et parfois, ça, c'est nos jeunes. C'est les jeunes de mon église, ils vivent ça. Dans cette histoire, on a Anne. C'est elle qui fait le travail. Elle prend son enfant, elle le sevre et elle l'emmène à l'église. On en a combien des jeunes? 10, 20, 25 pour les grosses églises. On a combien des jeunes de notre quartier? On a combien d'amis de nos enfants? Dans 10 jours, on va avoir notre soirée de notre groupe, CAP, et c'est la soirée j'emmène mon ami non chrétien. Alors on a préparé cette soirée, et la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui permet à ton pote de venir? Qu'est-ce qui n'est pas honteux? Qu'est-ce qui n'est pas honteux? Et ton pote va te dire, là je reviens. Alors ils n'ont pas réussi à répondre à cette question. Je dis, qu'est-ce qu'on trouve dans une soirée où on invite nos amis non chrétiens? Ils ont dit, une bonne étude biblique. Il faut une bonne étude biblique. Il faut une bonne présentation de l'évangile. Effectivement, il y a des présentations de l'évangile qui sont un peu hermétiques. C'est l'évangile, hein. C'est l'évangile qu'on présente. Mais c'est un peu hermétique. Et pour nos jeunes, ils nous ont fait comprendre, il fallait une bonne présentation de l'évangile. C'est gloire à Dieu, c'est la première chose qui est sortie. Qu'est-ce qu'il faut d'une soirée où tu invites ton pote? Il faut une bonne présentation de l'évangile. Apprendre à décider du menu, on aura un jeu, mais la première chose qu'on aura, c'est une bonne présentation de l'évangile. Ce qu'on voit dans ce texte, ce qui va être un point capital pour Samuel, c'est sa rencontre avec Dieu. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous une autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il aurait pu rajouter le reste, on s'en moque. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que mon église, mon bâtiment est attractif? Non. Est-ce que moi, en tant que responsable, je suis attractif? Non. Mais par contre, je présente l'évangile. Et c'est Jésus-Christ qui attire. On doit présenter Christ. Ça doit être le but, le cœur, le cerveau, tout ce qu'on fait. Présenter Christ. Bien souvent, bien trop souvent, j'ai pas présenté Christ. J'ai présenté un devoir de servir. Tu dois servir. Bien souvent, j'ai présenté un devoir de comportement. Tu dois obéir. Et je n'ai pas présenté Christ. Ne servent que ceux qui sont consacrés. N'obéissent et ont une vie qui porte du fruit que ceux qui sont consacrés. Et les seuls qui sont consacrés, c'est ceux qui ont rencontré Christ. Chapitre 3, à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de Dieu, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Ne t'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau une troisième fois Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. Encore un moment particulier dans cette histoire, dans ce contexte, dans cet environnement, on a une parole de l'Éternel qui est rare. On a un sacrificateur qui ne suit pas la parole. On a des enfants qui font n'importe quoi. Et on a ce petit enfant, il fait tâche un peu dans l'environnement. Vraiment. On se demande ce qu'il fait là. On a presque envie de dire, tu vas grandir, mais si tu veux vraiment grandir, c'est pas ici que tu dois être. C'est pas ici que tu dois grandir. Et dans ce contexte un peu particulier, Dieu s'adresse à Samuel. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Samuel ne comprend pas. Il faut savoir que juste avant, on n'a pas lu ces choses, par un homme, Élie va être averti qu'il va être châtié. Dieu en a marre du péché, Dieu en a marre de sa mauvaise gestion de ses fils, il sera châtié. Le verset suivant, on apprend que les versets suivants, Samuel va être celui à qui Dieu va parler. Et Élie, je pense, a compris. Je pense qu'Élie a compris que là, le vent était en train de tourner de manière concrète pour lui, pour sa famille. Dieu a appelé Samuel une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et Élie va comprendre. Là, c'est le tournant de ta vie. Dieu t'appelle et la seule chose que tu peux répondre, c'est j'écoute. La seule chose que tu peux répondre à l'appel de Dieu, c'est Dieu t'écoute. J'ose pas faire des appels. J'en fais rarement. Quand je fais une étude avec les jeunes ou même en prédication en chair, je le fais rarement. Je sais pas, parfois je trouve que c'est un peu artificiel. Parfois, je me dis que c'est l'ambiance de la chose qui va dire aux gens de se lever, ou je sais pas. C'est pas trop mon truc. On m'a reproché une fois, alors après une prédication, le gars m'a dit, je pense que là, tu aurais dû faire un appel quand même. Et ce chant qu'on a chanté hier, je crois qu'on l'a chanté hier, Jésus te confie, va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel, saint séjour. Élie va dire à Samuel, là, c'est Dieu qui t'appelle. T'as pas d'autre solution, t'as pas d'autre alternative, t'as pas d'autre choix que de dire j'écoute. J'ose rarement dire ça à mes jeunes, que ta vie elle est nulle tant que tu n'auras pas mis le problème du péché tant que tu n'auras pas réglé le problème du péché, ta vie sera nulle. Ta culpabilité, ton oisiveté, ton indifférence, ton péché manifeste, tout ça, tant que tu n'as pas réglé ça avec Christ, c'est nul. Vous savez, parfois je me suis fait le reproche il y a très peu de temps de m'être dit, pour un ado c'est pas grave, famille particulière avec qui j'ai vraiment du mal, il a pas du tout envie de venir le jeune, j'ai contacté les parents, ils m'ont dit il viendra pas. Je me suis dit c'est pas grave. J'étais repris à l'ordre par le pasteur. Il m'a dit tu vas chercher. Bon, il faut aller chercher. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont vraiment besoin d'entendre que Christ est mort pour eux. Et donc cette année on a décidé de changer le nom du groupe. Ça s'appelait groupe de jeunes avant, ça faisait un peu classique, indifférent. On a décidé d'appeler ça le groupe CAP. On a décidé que cette année, on allait faire en sorte qu'ils deviennent des modèles. C'était ma petite proposition, le but de ma première étude. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, nous on a dit, en esprit, en foi et en pureté. Sois un modèle. Et pour ces jeunes qui sont dans l'église, je veux leur dire, là, tu as de quoi être un modèle. Si tu veux avoir une vie qui est épanouissante, une vie qui est juste, là, tu as de quoi être un modèle. Et tu dois te positionner et répondre à l'appel de Christ. Parfois, on lance l'appel et on n'attend pas. J'ai vu une jeune adulte, il y a 2-3 dimanches, sortir du culte, et cette jeune adulte, elle est hermétique. Très bon caractère. Souriante. Bon enfant, tout ça. Serviable. Et je lui dis, avec des pincettes, je sais que tu n'aimes pas parler de ça, mais à un moment donné, t'en es où avec Dieu? Et elle me dit, on en parlera si tu veux. Alors j'étais un peu estomaqué, parce qu'elle est vraiment, vraiment très hermétique à ce genre de discussion. Et là, je sais que la question que je vais lui poser, c'est quand? Quand est-ce que tu vas te convertir? Quand? On peut faire ça avec nos jeunes. Et effectivement, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de place pour le monde dans notre église. Mais par contre, notre église, elle doit s'exporter vers le monde. Il n'y a pas de place pour le monde dans mon église, mais mon église doit s'exporter vers le monde. Cette jeune-là, elle vient tous les dimanches. C'est simple. On a l'association Matania qui fait des camps. J'ai vu que je crois que vous avez 4 associations dans la CBI qui fait des camps. Et nous, on fait des camps et on a des jeunes qui viennent. Et on a vraiment des jeunes de tout milieu. J'ai reçu un coup de fil une fois d'une dame qui travaille dans un foyer, qui m'appelle pour des trucs administratifs, et elle me dit, vous, avec votre camp, ça dure 8 jours. Alors, je n'ai pas trop compris, pardon, qu'est-ce qui dure 8 jours? Nos enfants, quand ils reviennent de votre camp, pendant 8 jours, ils sont polis. Ils disent merci, bonjour, de rien, au revoir, etc. Bon, après, elle me dit, après, ça, ils redeviennent normaux. Hein. Mais pendant 8 jours, ça se passe bien. Alors, cette année, on s'est dit, bon, c'est plusieurs années qu'on aura dû le faire, on s'est dit, on va essayer de rechercher nos jeunes qui viennent dans nos camps, mais qui ne viennent pas à l'église. Il faut que notre église s'exporte dans le monde. Allô, votre enfant a fait un camp avec nous, on voudrait l'inviter à des activités de jeunesse dans notre église. C'est le samedi, c'est le... Et voilà, on va essayer d'aller chercher les jeunes qui sont en dehors de nos églises. C'est un défi particulier, ça transforme un peu, ça transformerait un peu la physionomie du groupe, hein. On serait plus en face de chrétiens qui répondent oui à tout, mais on serait en face de jeunes auxquels il faudra confronter l'évangile. Élie va dire à Samuel, tu vas et tu réponds. On ne peut pas imaginer ce que je veux dire. Mais Samuel aurait pu dire non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne réponds pas. Bon, ce n'est pas imaginable. Donc je passe pas beaucoup de temps là-dessus. Mais nous, nos jeunes, on leur dit, réponds. Et certains disent non. Je ne réponds pas. Pas le moment. On a eu un camp là, cet été, et il y avait ce préado qui, pour moi, était converti. Vraiment, il était converti. Et j'ai dit, c'était un dimanche, j'ai dit au camp, là, maintenant on n'est pas à l'église, mais on fait notre culte. Un culte de jeunes, je veux que ce soit des préados qui dirigent le culte, vous, je ferai l'étude, vous faites la présidence, les chants, vous faites, et ce serait bien d'avoir un ou deux témoignages de jeunes. Pas de problème, ils ont organisé ça. Et ce jeune, il devait donner ses témoignages et il me dit, ah, je sais pas quoi écrire. Alors, bon, écoute, viens, on va discuter. Et je me rends compte que on lui a toujours lancé l'évangile à cet enfant, mais il l'a jamais accepté pour lui. Jamais. Et il l'a pas non plus accepté après la discussion, hein. Jamais. Il l'a pas accepté. Tu répondras, parle, car ton serviteur écoute. Et à l'appel de Dieu, Samuel a répondu, parle, car ton serviteur écoute. Changement, transformation, on a une nouvelle personne. Une personne qui est prête à entrer dans le champ de Dieu, dans le service de Dieu. Ne servent que ceux qui sont positionnés. Sont positionnés que ceux qui ont répondu à l'appel. Mon travail, leur annoncer, leur ouvrir, leur faire entendre l'appel et leur permettre de se positionner. Dernière chose, quelle était la responsabilité de Samuel dans ce passage, ce chapitre? Quelle a été la première action, la première œuvre de ce jeune nouveau responsable dans son travail, dans l'église? Élie, tu vas être châtié. Élie, tu vas être châtié. C'est ce que Dieu a dit. Parfois, on a du mal à... Non, peut-être pas vous. Parfois, j'ai du mal à penser qu'ils feront bien. Je suis tellement, parfois, dans mon côté un peu maniaque, que ce truc-là, tu ne feras pas. Et ce truc-là, tu ne feras pas. Et ouais, ce petit truc-là, à rigueur, tu ne feras pas non plus. Samuel était capable de faire ce pourquoi Dieu l'avait appelé. À un jeune âge. Je ne sais pas quel âge il avait. Plusieurs fois, la Bible dit qu'il grandissait, que Dieu était avec lui. Alors, bon, ça n'a pas duré une semaine, tout ça. Hein. Mais du coup, Samuel, il a été capable. Et on doit reconnaître en nos jeunes une certaine capacité de se tromper et de faire bien. Quand je reconnais à un jeune la capacité de se tromper et de faire bien, c'est encourageant, c'est sécurisant et c'est responsabilisant. Ils peuvent. Ils peuvent le faire. Mais on doit l'accompagner. Je ne sais pas combien de temps ensuite a duré cette histoire entre cette annonce du châtiment et ensuite la mort des fils d'Élie, puis d'Élie. Je ne sais pas combien de temps. Mais je me dis qu'il y a eu un accompagnement. Et nos jeunes ont besoin d'accompagnement. Nos jeunes ont besoin qu'on les récupère, certains, qu'on prie avec eux, qu'on prie pour eux. Nos jeunes convertis ont besoin qu'on les continue à les enseigner. On met souvent une barre avant le baptême, après le baptême. Avant le baptême, on va vous former, vous modeler pour que vous ressembliez bien à des petits chrétiens qui méritent d'être baptisés, entre guillemets. Et après le baptême, fais ta vie. C'est le reproche que je me fais, hein. Non, on doit les accompagner. Je pense que malgré la difficulté de ce qu'a reçu Élie, il a continué à accompagner Samuel. Élie est mort, ses fils sont morts, Samuel est devenu prophète en Israël, il a fait sa vie. Il n'a pas une vie, une fin aussi glorieuse qu'on aurait pu attendre de lui, mais il a été fidèle. Protéger les jeunes du monde par l'Église. Romains 6, 22, qui sera un peu ma conclusion. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. J'ai longtemps cherché dans la Bible un texte qui parle des jeunes protégés par l'Église. Je me suis dit, on aurait pu prendre ce texte-là, on aurait pu prendre ce texte-là, ou à la rigueur, on aurait pu prendre ce texte-là. C'est normal. Parce qu'un jeune protégé par l'Église, c'est un jeune qui est serviteur. Si tu sers Dieu, tu ne serviras pas le reste. C'est pas possible. On doit amener nos jeunes à être des serviteurs. Quelqu'un disait, en regardant le Nouveau Testament, il n'y a pas de jeunes dans l'Église. Il n'y a que des serviteurs. Et c'est vrai que c'est une bonne phrase. Et nos jeunes, on doit les considérer comme des futurs potentiels serviteurs. Mon état d'esprit, toi, tu dois servir. Toi, tu dois servir. Toi, tu dois servir. En me rappelant que je les ai pour un temps. En me rappelant qu'ils doivent entendre la parole de Dieu, l'évangile, Christ et Christ crucifié. En me rappelant qu'ils doivent se convertir. En me rappelant qu'ils doivent être consacrés. En montrant l'exemple d'un lieu où il n'y a pas de péché. Et en les mettant au service. C'est, faut pas que ça reste des idées toutes faites. Ça m'a chamboulé, moi, en me disant, il y a plein de points où Franck, t'es pas au rendez-vous là. Donc il faut que tu te bouges. Et ça va pas rester stérile. Et j'ai envie que pour nous, pour nos jeunes, pour nos églises, ces points-là ne restent pas stériles. Qu'on se bouge. Vous êtes peut-être pas responsable de jeunes, faites passer le message. Organisez la chose pour que nos jeunes deviennent des serviteurs. Et en étant des serviteurs, ils soient protégés du monde. Qu'ils deviennent des serviteurs.